Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America depuis Washington DC. À la présentation, Nanit Talani. Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes sont des maladies infectieuses potentiellement mortelles qui surviennent le plus souvent dans des zones où l'hygiène est précaire. C'est une maladie très fréquente dans les pays en voie de développement. Que faire en cas de fièvre typhoïde? Quand consulter un médecin? Quels sont les symptômes ou les signes de fièvre? Quels sont les modes de contamination?
On ne peut pas parler de la fièvre typhoïde, mais pas fièvre. Les autres symptômes, vous pouvez avoir des troubles digestifs, alternance, diarrhée ou constipation, ou les deux à la fois, les insomnies, la toux, les hémorragies, céphalées.
Pour en discuter, nous serons avec le docteur Timothée Nkeba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Après cette discussion sur la première partie consacrée à la fièvre typhoïde, après cet entretien, vous suivrez Carnet de santé dans la deuxième partie de l'émission. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous proposons maintenant de suivre notre discussion avec le docteur Timothée Nkeba. Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Aujourd'hui nous
Bonne
allons...
année.
Merci beaucoup docteur. Nous allons parler de la fièvre typhoïde. Nous allons commencer avec une question qui vient de la RDC, Pascal Munganguzi, qui veut savoir ce qui est à la base de la fièvre typhoïde.
En fait, la fièvre typhoïde fait partie des maladies fébriles transmissibles et causées par certaines bactéries du genre Salmonella. Ce sont des maladies qui sont principalement dues à des fièvres et ces fièvres-là sont causées par des bactéries qui sont principalement des Salmonella. Les Salmonella qui causent la fièvre typhoïde sont principalement des trois catégories. Les Salmonella typhi, les Salmonella paratyphi A et B et même les Salmonella paratyphi C. C'est principalement ces germes-là qui causent la fièvre typhoïde.
Ensuite, nous avons une question qui vient de Gilbert Onesim Kasinga depuis le Kasaï oriental en RDC. Mais c'est aussi la même question que beaucoup d'auditeurs ont posée. Donc lui, il veut savoir quels sont les symptômes de la fièvre typhoïde.
Les symptômes de la fièvre typhoïde sont polymorphes. C'est plusieurs symptômes, mais principalement, comme le nom le dit, les premiers signes, les premiers symptômes phares, c'est la fièvre. On ne peut pas parler de la fièvre typhoïde sans fièvre. Ça, c'est la première chose. Les autres symptômes dépendent de la phase de l'évolution de la maladie. Donc, j'ai dit principalement la fièvre. Vous pouvez avoir des troubles digestifs en général, alternance, diarrhée ou constipation, ou les deux à la fois. Vous pouvez avoir des insomnies, vous pouvez avoir la toux, vous pouvez avoir des épistaxis ou des hémorragies, vous pouvez avoir de la tenue physique, des céphalées, c'est l'ensemble de tous ces signes-là. Mais surtout, la fièvre qui est l'élément capital dans la maladie appelée fièvre typhoïde.
Merci. Et en cas de fièvre typhoïde, lorsqu'on a constaté tous ces symptômes et qu'on est convaincu qu'il s'agit certainement de la fièvre typhoïde, qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement?
Normalement, quand on a la fièvre typhoïde, on doit se faire consulter. Ça, c'est l'idéal parce qu'on ne peut pas se déclarer avoir la fièvre typhoïde by Kirak. On a des signes, vous allez vous faire consulter. Et lors de la consultation, il y a des éléments cliniques pathognomoniques qui mettent le clinicien en alerte pour lui dire ici, probablement, on peut être devant la fièvre typhoïde. Et cliniquement, on va avoir une température qui est assez élevée. On dit la température, la fièvre en plateau. C'est une fièvre qui, quand c'est élevé, ça ne baisse pas avec les antipyrétiques originaires facilement. Et aussi, cliniquement, il y a ce qu'on appelle la dissociation pour température. Ça veut dire que quand la température monte dans le corps humain, normalement, les poumons doivent aussi monter au même moment. Mais en cas de fièvre typhoïde, la température augmente, mais les poumons ont tendance à rester normal. Ça, ce sont des éléments cliniques qui mettent les cliniciens en alerte. Le clinicien va procéder à faire des examens de laboratoire. Il y a des examens de confirmation et des examens d'orientation. Pour confirmer la fièvre typhoïde, on doit faire ce qu'on appelle la culture de sang, hémoculture. C'est le premier examen. On peut aussi faire la coproculture, c'est la culture au niveau des selles. Pas seulement ça, on peut faire l'uroculture, la culture au niveau des urines. On peut faire aussi la biniculture. C'est principalement ces éléments-là qui aident les cliniciens à poser le diagnostic précis confirmant la fièvre typhoïde. Mais en dehors de ces éléments-là, de cette étude, il y a des éléments, ce qu'on appelle les diagnostics d'orientation. Ça, par exemple, on va faire le Widal qui peut vous orienter vers la fièvre typhoïde. On peut faire la numération des globules blancs ou l'hémogramme, principalement. Ça peut aussi vous orienter. Mais principalement, pour confirmer ça, on doit faire l'hémoculture, on doit faire la copoculture, on peut faire la biliculture ou encore l'uroculture.
Christian Dérabé veut savoir si le régime alimentaire ou bien l'eau peuvent aussi provoquer la fièvre typhoïde.
La fièvre typhoïde, c'est une maladie, ce qu'on appelle maladie de Messal. C'est une maladie dont la source de contamination, c'est la source humaine. C'est à partir des maladies ou des portées chroniques qui sont des hommes. La principale voie de contamination, c'est la voie digestive. C'est-à-dire qu'on prend les germes en les mains et on va les introduire dans les tubes digestifs. Les modes de contamination peuvent être directs. Donc, de l'homme à l'homme, à partir des mains qui sont souillées ou de l'eau qui est contaminée, et en manipulant des éléments ou des aliments qui sont contaminés, avec des mains sales, on peut se faire contaminer. Mais aussi une contamination indirecte. Et la contamination indirecte, c'est fait par les biais des mouches, des cancrelats et d'autres bestioles qui peuvent entrer en contact avec les matières fécales de l'homme et avec les mains sales, en ingurgitant la nourriture, par exemple, on peut attraper facilement la fièvre typhoïde. Mais il faut noter qu'il y a des facteurs favorisants.
Vous parlez des facteurs favorisants. Quels sont ces facteurs qui peuvent facilement favoriser la fièvre typhoïde?
Deux groupes de facteurs principalement. Le premier groupe de facteurs, c'est ce qu'on appelle l'hygiène individuelle et publique qui est déficiente. Ça consiste à quoi? C'est par exemple ne pas se laver les mains avant les repas ou après avoir été aux toilettes. C'est s'exposer par exemple ou bien exposer des aliments qu'on doit manger à l'air libre, à la portée des mouches, des bestioles ou encore des cancrelats. C'est avoir des fosses septiques bouchées ou mal entretenues. Mais aussi, c'est le manque d'eau de qualité qu'on consomme qui peut favoriser l'hygiène déficiente. Le deuxième groupe de facteurs favorisants, ce sont des régions où il y a des grandes concentrations des hommes. Là, nous pouvons citer des internats, des casernes, des prisons, des structures où il y a une promiscuité. Donc, c'est principalement ces deux groupes de facteurs favorisants qui peuvent nous amener à faire la fièvre typhoïde.
Kevin Kaninda, depuis Lubumbashi, il dit qu'il a quelqu'un de proche, un de ses proches qui souffre de la fièvre typhoïde. Il s'inquiète s'il peut être contaminé. Donc, si cette maladie peut être venir d'une personne vers une autre.
Oui, je l'ai dit tantôt, j'ai dit que ce sont des maladies transmissibles. Transmissibles ou ce sont des maladies des liens sales. Quelqu'un qui est contaminé, qui a les germes ou bien qui porte les germes en lui, il peut aller faire ses selles facilement et ne nettoie pas très bien les mains après s'être essuyé. Et il quitte les toilettes, il ne se lave pas les mains, il vient vous saluer directement. À partir de vos mains, de cette salutation, vous pouvez vous faire attraper par la fièvre typhoïde.
Ok, je crois qu'il a compris, c'est bien clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus disposées à souffrir de cette maladie?
Il n'y a pas de personne disposée à faire la maladie, sauf seulement qu'il y a des régions qui ont une hygiène défectueuse et dans ces régions-là, on trouve un peu plus beaucoup de cas de fièvre typhoïde qui sont liés à l'hygiène. Mais il n'y a pas un âge ou des personnes ou les sexes qui ont une prépondérance à faire la fièvre typhoïde qui n'ont qu'une région. Il n'y a pas de genre, l'âge pour dire non. Seulement, ceux qui sont exposés par rapport à leur hygiène qui n'est pas une hygiène adéquate, ces personnes-là sont susceptibles de faire la fièvre typhoïde.
Jean Okongo Osumaka qui se demande si la fièvre typhoïde peut aussi attaquer les enfants de moins de 5 ans, les bébés que la maman est en train d'allaiter par exemple.
La fièvre typhoïde attaque tout le monde. Vous savez que les enfants de moins de 5 ans sont des personnes de nature vulnérable. Et quand une maman n'a pas une bonne hygiène, la maman peut contaminer son enfant. Vous savez que les enfants sont sont des personnes qui ont une immunité faible. Naturellement, une maman qui est infectée et qui ne sait pas très bien se soigner peut transmettre les germes entre temps. Elle a des germes entre ses mains, elle va manipuler ses seins et en donnant les seins à l'enfant, l'enfant peut se faire contaminer.
Est-ce que vous avez beaucoup de personnes dans votre hôpital qui viennent vous consulter pour la fièvre typhoïde?
Oui, la fièvre typhoïde fait partie des maladies tropicales. Surtout dans les conditions de notre travail, dans les conditions de nos milieux où la salubrité n'est pas à la portée de tout le monde. Nous consultons beaucoup de cas de fièvre typhoïde, mais il faut noter là que la plupart des cas, ce sont des cas qui viennent avec beaucoup de complications. Les gens qui ont été manipulés par-ci, par-là, et quand il y a des complications, ils nous amènent soit avec des hémorragies digestives, soit avec des perforations intestinales, soit encore avec les malades qui viennent en coma, en encéphalite typhique, comme on l'appelle. Donc nous les recevons régulièrement.
Merci beaucoup. Est-ce que la fièvre typhoïde, comme on l'appelle fièvre, c'est une maladie qu'on peut facilement confondre à une autre et confondre le malade, quoi?
Oui. La fièvre typhoïde, on peut faire le diagnostic différentiel avec beaucoup d'autres maladies. Par exemple, la malaria peut se confondre avec la fièvre typhoïde parce que la malaria a des signes de fièvre. Mais celle-ci, c'est une infection généralisée. Vous pouvez les confondre avec la fièvre typhoïde et l'angiocolite parce que au stade avancé de la fièvre typhoïde, des complications, vous pouvez avoir une hépatosplénomégalie qui peut vous amener à confondre la fièvre typhoïde avec l'angiocolite. Vous avez aussi la tuberculose, la shigellose et les salmonelloses notifiques, la médiase colo-hépatique sont là des groupes de maladies qui peuvent se confondre avec la fièvre typhoïde.
Merci beaucoup. Est-ce que toutes les personnes qui ont la fièvre typhoïde ont des symptômes qu'on peut facilement distinguer ou bien il y a aussi des malades qui sont porteurs ou bien qui ont la fièvre typhoïde mais ne développent pas les symptômes? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ces personnes peuvent savoir qu'ils ont la fièvre typhoïde?
C'est difficile. Je l'ai dit tantôt, quelqu'un peut avoir fait la fièvre typhoïde. Après quelques temps, il a en lui, on appelle ça des porteurs chroniques, ces anticorps ont développé l'immunité contre la fièvre typhoïde. Mais à l'ennemi, quand on n'a pas encore fait la fièvre ou quand on n'a pas encore été examiné, c'est difficile de dire que celui-ci porte la fièvre typhoïde ou pas. Donc il faut faire la maladie ou encore ceux qui fréquentent les services hospitaliers, lors d'un check-up ordinaire et en faisant le bilan général, on peut aller découvrir qu'il a la fièvre typhoïde pendant qu'il n'a pas encore commencé à faire la maladie.
C'est pourquoi il est important de faire un bilan médical de temps en temps.
C'est recommandé de temps en temps, même quand vous n'êtes pas malade, de faire le bilan médical. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, surtout, les maladies liées à la civilisation, hypertension, diabète, tout ça, insuffisance rénale, ce sont des maladies qu'on ne voit pas quand ça commence au début. Donc, quand vous avez les symptômes, la maladie s'est déjà installée. C'est comme ça qu'on recommande à tout le monde, même quand quelqu'un n'est pas malade, régulièrement d'aller faire un check-up tous les 3 mois, tous les 6 mois. C'est parfois pour aller découvrir ce que vous n'avez pas encore des symptômes. Parce que la plupart du temps, chez nous allons à l'hôpital seulement quand on commence à faire la fièvre, quand on commence à voir tel symptôme. Et souvent, la maladie a déjà pris de l'ampleur et vous venez la dénoncer après.
Merci beaucoup, docteur. Je pense que à cause du temps, nous allons nous arrêter ici. Mais prochainement, nous promettons aux auditeurs que nous allons revenir avec le docteur Timothée Nkiba pour aborder la deuxième partie de cette émission parce que beaucoup d'auditeurs ont aussi posé les questions concernant le traitement, la prévention de la fièvre typhoïde, mais aussi les complications qu'une fièvre typhoïde mal traitée ou non traitée peut entraîner dans la vie d'une personne.
Merci beaucoup.
D'accord, nous vous remercions, docteur. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine.
Merci.
C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkiba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Notre discussion a porté sur la fièvre typhoïde. Voici le moment de suivre Carnet de santé avec les normes.
Cette semaine, dans Carnet de santé, le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida et nous examinerons les progrès, les défis et les opportunités dans la lutte contre la maladie. Le Kenya s'efforce d'atteindre l'objectif ambitieux d'éliminer le VIH-Sida d'ici 2030. Ensuite, une interview exclusive avec l'ambassadeur John Nkengasong, coordinateur des États-Unis de la lutte mondiale contre le Sida. Enfin, dans la rubrique Focus sur l'épidémie, l'Afrique de l'Ouest lutte contre la diphtérie, tandis que la République démocratique du Congo fait face à la variole du singe et que le Zimbabwe lutte pour contenir le choléra. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La première journée mondiale de lutte contre le sida a été commémorée il y a 35 ans. Cette célébration mondiale offre une plateforme le 1er décembre de chaque année pour sensibiliser au VIH et au sida et montrer un soutien à ceux qui sont touchés par la maladie. Le thème de cette année est 35e journée mondiale de lutte contre le sida. Souvenez-vous et engagez-vous. L'Organisation mondiale de la santé affirme que le VIH a coûté la vie à plus de 40 millions de personnes dans le monde et demeure un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Bonne nouvelle, les décès liés au sida ont chuté de près de 70% depuis 2004, année la plus meurtrière, et le nombre de nouvelles infections au VIH est au plus bas depuis les années 1980, selon l'ONU-SIDA. Les données de l'OMS révèlent qu'environ 39 millions de personnes vivaient avec le VIH à la fin de 2022, dont les deux tiers en Afrique. Partons au Kenya, où 1,4 million de personnes vivent avec la maladie. Ce pays d'Afrique de l'Est a fait des progrès significatifs au cours de la dernière décennie dans la réduction du VIH. Le Kenya vise à éliminer l'épidémie d'ici 2030. Juma Majanga en parle depuis Nairobi.
Dans le quartier de Dandora, à Nairobi, nous allons à la rencontre de Lucy Wanjiku sur son lieu de travail. Wanjiku raconte qu'elle a senti sa vie voler en éclats il y a 13 ans lorsque, adolescente et mère de famille fraîchement sortie du lycée, elle a été testée positive au VIH. Tragiquement, son enfant est mort deux semaines plus tard. Malgré cette perte dévastatrice, Wanjiku a recollé les morceaux de sa vie et des années plus tard les a utilisés pour créer Positive Young Women Voices. Cette organisation communautaire défend et soutient les filles et les jeunes femmes touchées par le VIH dans le bidonville où elle a grandi.
Nous voudrions avant tout que les personnes vivant avec le VIH se valorisent et restent sous traitement, qu'elles vivent pleinement leur vie. Ne vous servez pas de cette situation comme une excuse pour ne pas réaliser vos rêves ou atteindre vos objectifs.
Depuis la découverte du premier cas de VIH au Kenya, il y a 40 ans, le pays a fait des progrès considérables dans l'amélioration de la prise en charge du sida.
Par exemple, en 1996, la prévalence était de 10,3% dans le pays, alors qu'elle est aujourd'hui de 4,9%. Il y a une réduction de la mortalité, une réduction de la mobilité. Nous ne sommes donc plus à l'époque où l'on voyait une personne maigre, émaciée, et où l'on se disait que c'était le VIH-Sida. Les gens vivent en bonne santé et peuvent se mêler aux autres sans que leur statut soit connu.
Sur les 1,4 million de personnes vivant avec le VIH au Kenya, 1,1 million suivent une thérapie antirétrovirale et 73% d'entre elles parviennent à une suppression virale, selon les données du ministère de la Santé du pays. Les nouvelles infections ont diminué de 78% et les décès liés au sida de 57% au cours de la dernière décennie.
J'ai fait le test lorsque j'étais enceinte de 2 mois et je ne l'ai plus jamais refait. Mais maintenant, à chaque visite à la clinique en tant que femme enceinte ou mère, vous devez vous faire dépister. Cela semble inutile, mais c'est vraiment utile, cela peut vraiment aider. Et même lorsque vous êtes sur le point d'accoucher, vous êtes toujours testé.
Le thème 2023 de la Journée mondiale du sida, célébré le 1er décembre de chaque année, est « Let Communities Lead ». Le docteur Lynette Juma affirme que les communautés jouent un rôle fondamental dans l'éradication du VIH en Afrique.
Le plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida, PEPFAR, a été créé en 2003. Depuis lors, plus de 100 milliards de dollars ont été investis dans la réponse mondiale au VIH à travers le PEPFAR, sauvant 25 millions de vies et prévenant des millions d'infections au VIH, selon le gouvernement américain. Pour en savoir davantage, nous nous sommes entretenus avec l'ambassadeur John Nkengasong, coordinateur de la lutte mondiale contre le sida pour les États-Unis.
Le programme PEPFAR est un grand symbole de solidarité et d'attention du peuple américain envers le continent africain. Imaginons qu'il y a 20 ans, le VIH faisait des ravages sur le continent africain. Il y avait probablement des experts et des médecins qui pouvaient diagnostiquer le VIH, mais c'était la fin de l'histoire, c'était une condamnation à mort. Le PEPFAR est arrivé et, en 20 ans, il a sauvé environ 25 millions de vies, évité la transmission du VIH aux enfants par leur mère infectée, soit 5,5 millions de personnes. Je ne connais donc aucune intervention dans l'histoire des maladies infectieuses au cours de cette décennie qui ait eu un impact aussi important sur les résultats. Les infrastructures et les systèmes de santé publics ont été considérablement renforcés en Afrique. Nous avons soutenu la création de plus de 3 000 laboratoires en Afrique. Plus de 340 000 travailleurs de la santé publique ont été formés et environ 70 000 établissements de soins de santé ont été renforcés en Afrique. Ainsi, grâce à ce que PEPFAR a fait dans plusieurs pays, ils ont maintenant la capacité d'utiliser les mêmes infrastructures pour répondre à d'autres types de maladies comme la rougeole, les épidémies de choléra, Ebola et récemment le Covid-19. Le Covid-19 a été un test permettant de voir ce que les infrastructures de santé publique peuvent faire dans les pays qui les possèdent par rapport à ceux qui n'en ont pas. Dans le cadre de la lutte contre le VIH, les pays qui ont réalisé des progrès significatifs sont ceux qui ont intégré la communauté très tôt. Et les communautés prennent l'initiative du dépistage et veillent à ce que les gens connaissent leur statut. Les communautés prennent l'initiative en matière de traitement, c'est-à-dire qu'elles veillent à ce que les gens suivent leur traitement et qu'elles conseillent et informent leurs concitoyens dans ce contexte de ce que signifie maintenir sa valeur en dessous du niveau de tolérance de la suppression. Lorsque la communauté prend l'initiative, nous progressons.
Au Mozambique, l'enquête nationale sur l'impact du VIH et du sida en 2021 révèle qu'une femme sur quatre, âgée de 35 à 39 ans, est infectée par le virus du VIH. Des associations comme Kindle Muka œuvrent pour sensibiliser et encourager le dépistage et augmenter le taux de rétention dans le traitement antirétroviral. Amarilis Koulé nous en dit plus.
Albertina Tamele a connu des pertes dans sa vie. Son mari est décédé en 1996. Lorsque la raison de sa mort a été révélée, Tamele et sa fille ont été invités à se soumettre à un test de dépistage du VIH. Ils nous ont dit que nous étions séropositifs. Ce n'était pas facile parce que mon enfant n'avait qu'un an et 10 mois. Je me suis mise à penser au fait que si un enfant devrait suivre un traitement à vie, c'est dur. Son mari est d'abord décédé, puis sa fille. Tamele a été diagnostiquée séropositive en 1996, mais elle n'a commencé le traitement qu'en 2004. Elle avait alors une nouvelle relation et un fils également séropositif. Nous suivons le traitement comme il se doit et grâce à Dieu, lui et moi avons une charge virale indétectable. Nous le faisons tous les jours. La prévalence du VIH au Mozambique reste l'une des plus élevées au monde, avec environ 2 millions d'adultes vivant avec la maladie. Selon l'enquête nationale sur l'impact du VIH et du sida au Mozambique, un adulte sur 8 vit avec le VIH. Les femmes représentent 15% des cas. Alice, nom d'emprunt, a été invitée par un militant à faire un test de dépistage du VIH au cours d'une conférence. À leur grande surprise, le résultat s'est avéré positif. Elle avait 24 ans. 2 ans plus tard, ses parents ne savent toujours pas qu'elle est séropositive. Quand j'ai eu les résultats, je suis partie en pleurant. Ce n'était pas facile. J'ai eu le courage de le dire à ma cousine, mais je n'ai pas dit à mes parents jusqu'à aujourd'hui. L'association Kindle Muka a été fondée en 1998 à Maputo, la capitale du Mozambique. L'association s'engage à aider les communautés vulnérables touchées par le VIH-SIDA en sensibilisant la population, en facilitant l'accès au traitement et en luttant contre la stigmatisation.
Nous travaillons avec des personnes vivant avec le VIH et le sida, des orphelins et des enfants vulnérables. Nous examinons de plus près ce dont ils ont besoin afin d'apporter ensemble une réponse à leurs besoins.
INSIDA 2021 souligne qu'une femme sur quatre âgée de 35 à 39 ans est infectée et que 97,5% de celles qui connaissent leur statut sérologique suivent un traitement antirétroviral.
Lanice William est conseillère sur les questions de santé mondiale et du genre. Elle parle de son expérience dans la lutte contre le VIH-SIDA aux États-Unis, en Afrique et au-delà.
Comme nous l'avons constaté dans le récent rapport de l'ONU-SIDA publié cet été, des pays comme le Botswana, l'Eswatini, le Rwanda et la Tanzanie atteignent désormais les objectifs de 95-95-95 de l'ONU-SIDA, ce qui signifie essentiellement que 95 personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique par rapport au SIDA, 95% des personnes qui connaissent leur statut sérologique sont sous traitement, et enfin 95% des personnes vivant avec le VIH bénéficient d'une suppression virale. Je pense qu'en ce qui concerne les adolescentes et les jeunes femmes en particulier, nous devons vraiment faire beaucoup plus de programmes pour lutter contre les inégalités entre les sexes et les normes sociétales qui exacerbent les infections par le VIH chez les adolescentes et chez les jeunes femmes. Nous devons en particulier nous assurer que nous abordons les questions relatives à la prévention et à la réponse à la violence fondée sur le sexe, que nous veillons à ce que ces questions soient intégrées dans les programmes de prévention du VIH, qu'il s'agisse de la prévention de la violence basée sur le genre ou de la réponse à cette violence. Nous avons constaté que de nombreuses stratégies étaient utiles pour veiller à ce que les adolescentes et les jeunes femmes continuent à aller à l'école, notamment pour réduire le risque de violence liée au sexe. Mais nous savons aussi que certains programmes se concentrent vraiment sur la lutte contre certaines des inégalités qui existent au sein des sociétés. La manière dont vous engagez les femmes et les hommes en tant que défenseurs et alliés pour garantir la prévention de la transmission du VIH est également essentielle. Je pense que ce qui est important pour la prévention, le traitement et les soins du VIH, c'est que les communautés soient davantage impliquées. Et le thème de cette année est « Laisser les communautés prendre l'initiative ». Nous devons nous assurer que lorsque nous parlons de prévention, de traitement et de soins, nous intégrons les communautés.
Les autorités sanitaires en Afrique de l'Ouest intensifient leurs efforts pour contenir une vaste épidémie de diphtérie. Le Nigeria s'est lancé dans une campagne de vaccination visant des millions de personnes afin d'augmenter le taux d'immunité contre la maladie. Le Centre de contrôle des maladies du pays a déclaré une épidémie de diphtérie le 20 janvier 2023. Entre mai 2022 et début septembre 2023, plus de 6000 cas confirmés ont été enregistrés. La Guinée signale au moins 58 décès et plus de 495 cas depuis le début de l'épidémie en juin. La diphtérie est une maladie bactérienne très contagieuse et potentiellement mortelle qui peut se présenter sous des formes respiratoires ou cutanées. Par ailleurs, l'OMS a confirmé pour la première fois la transmission sexuelle du Mpox ou variole du singe au Congo, alors que le pays fait face à la plus grande épidémie jamais connue. Selon l'Agence de santé des Nations Unies, un résident belge s'est rendu au Congo en mars et peu de temps après a été testé positif au Mpox. L'OMS affirme que l'individu s'est identifié comme un homme ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Enfin, le gouvernement du Zimbabwe a imposé des restrictions sur les rassemblements publics et la vente de nourriture alors que les cas de choléra augmentent dans le pays. Les données gouvernementales révèlent que les nouveaux cas de maladie sont passés de 437 à plus de 1200, la plus forte augmentation depuis le début de l'épidémie en février.
C'est la fin de votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la fièvre typhoïde, notamment des symptômes, des modes de transmission et aussi de ce qu'il faut faire lorsque survient cette fièvre. Nous étions en compagnie du docteur Timothée Nkeba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph et de John Allison qui étaient à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.